La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Saviez-vous qu'en France s'entassent des substances radioactives partout sur le territoire? Plus d'1,5 million de mètres cubes de matière et de déchets potentiellement très dangereux, selon le dernier inventaire national qui a été dévoilé en juillet dernier par l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Et selon les chiffres, ces déchets sont de plus en plus nombreux. Le site reporter.net publie aujourd'hui en exclusivité la carte française des matières et des déchets radioactifs avec le recensement de toutes les communes qui accueillent un lieu de stockage ou d'entreposage. C'est le dossier cet après-midi de la tête au carré pour comprendre la vie d'un déchet depuis la mine d'uranium à la production d'électricité. Explication et décryptage avec vos questions en direct sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Caroline Tourbe, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, la sécheresse historique qui frappe les Alpes.
Oui Mathieu, le niveau des lacs au plus bas, des sources qui se tarissent, des villages privés d'eau courante et des pâturages desséchés. De mémoire d'homme, c'est simple, on n'avait jamais vu ça. Et pourtant, ce n'est peut-être qu'un avant-goût de ce que le climat nous réserve pour les prochaines décennies.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne, consacrée aujourd'hui à l'aspirine, à son usage préventif contre les maladies cardiovasculaires. Fanny Boyon réalise cette émission, préparée aujourd'hui par Irène Ménage.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, la carte française des déchets radioactifs, c'est donc le dossier cet après-midi de l'émission avec mes invités que je salue, Émilie Massemin et Hervé Kem pour reporter.net. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Mathieu.
Dédigué pour l'IRSN, bonjour à vous.
Bonjour.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et puis Bernard Laponche, physicien nucléaire. Bonjour à vous.
De l'association Global Chance.
Hervé Kem, vous publiez aujourd'hui en exclusivité la carte des matières et déchets nucléaires en France. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, des déchets, ben, il y en a partout.
Il y en a partout et il y en a de plein de catégories différentes qui chacun ont des niveaux de dangerosité différents, mais ont toujours une vraie nocivité et surtout souvent pour des durées de vie extrêmement longues.
Émilie Massemin, vous connaissez bien ce dossier que vous suivez justement pour reporter.net. Le volume de ces déchets ne cesse d'augmenter d'année en année?
Oui, tout à fait, puisqu'il y a un phénomène d'accumulation. On a déjà un centre d'entreposage complètement plein, un centre d'entreposage, un autre dans l'Aube qui va bientôt être plein, et des déchets qui n'ont toujours pas de filière.
Et ça fait partie des problèmes que vous évoquez justement dans cet article. Didier Gay, l'IRSN justement assure pour l'État l'expertise sur les questions nucléaires. Est-ce que vous travaillez également sur la transparence de l'information auprès du public?
Alors c'est effectivement au cœur même des missions de l'IRSN que de répondre au pouvoir public en venant les assister dans leurs décisions, mais également à faire en sorte que les citoyens soient impliqués dans l'information et dans les décisions sur tous les sujets relatifs au nucléaire.
Il y a un grand débat public qui arrive à partir de décembre. Et puis Bernard Laponche, en tant que physicien nucléaire, vous allez nous expliquer ce qu'est un déchet nucléaire, parce qu'évidemment, il faut passer par la science. On parlera donc de la gestion des déchets. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à trouver au moins une solution satisfaisante dans ce domaine, ou c'est encore très compliqué?
C'est pas moi qui le dis. Notre ancien ministre de l'écologie et puis aussi son secrétaire d'État tout le monde considère qu'il n'y a pas de solution satisfaisante pour les déchets. Alors après, on discute quelle est la moins satisfaisante ou la plus non satisfaisante.
Ouais.
Mais c'est un problème qu'on traîne depuis le début. Pendant très longtemps, ils ont dit il n'y a pas de problème, on trouvera une solution. On en a mis quelques-uns dans la mer, ça ne marchait pas. Et depuis, on est à la recherche d'une solution qui serait, entre guillemets, satisfaisante.
Ah ben, c'est ce qu'on va voir avec vous hein, dans quelques minutes pour nous éclairer sur ce dossier, évidemment, qui intéresse tout le monde, des déchets nucléaires. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque, bien sûr, pour nous retrouver avec les questions. Alors que le sud de la France a récemment été frappé par des inondations meurtrières, une large partie du pays continue de pâtir d'une sécheresse historique. La quasi-totalité de la Haute-Savoie est classée en alerte rouge depuis des semaines.
Un camion-citerne, seule solution pour pallier le manque de pluie qui dure depuis 4 mois. Une situation inédite pour les champs froméran. La source qui permet normalement de fournir les 700 habitants s'est tarie.
J'ai jamais vu ça. J'ai vu un manque d'eau, mais jamais être obligé de ravitailler par des citernes. Jamais, jamais. Moi, je suis né ici, donc j'ai 70 ans.
Ça nous inquiète, oui. Ça nous inquiète.
Voilà, donc la sécheresse historique qui touche les Alpes. Caroline Tourbe, on en parle avec notre invitée à la Une de la Science.
Oui, Mathieu, aujourd'hui, nous sommes en duplex depuis les studios de France Bleu Isère avec Serge Taboulot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable du centre météo pour les Alpes du Nord et vous êtes également spécialiste du suivi du climat. Donc on l'a entendu, la situation est inédite dans la région, dans une grande partie de la France. Elle est même dramatique. Vous n'aviez en fait jamais vu un tel déficit en eau?
Oh, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on est dans une situation de sécheresse très tardive pour la saison, extrêmement rare, et qu'elle touche un très très large quart nord-est de la France, Alpes du Nord incluses, et c'est bien là le paradoxe, puisqu'on a l'habitude d'être dans les Alpes du Nord, le château d'eau de toute cette région.
Justement, vous avez des exemples qui sont frappants. On a vu des lacs qui ont des niveaux d'étiage très bas.
Oui, encore ce matin, il y avait localement des informations des archéologues qui alertaient sur un niveau du lac de Paladru qui est plus de 2 mètres en dessous de son niveau habituel et qui met en péril les archives, enfin les vestiges archéologiques qui sont dans ce lac.
Pourtant, vous dites que, paradoxalement, ce n'est pas le manque de précipitation qui est en cause, c'est plutôt la chaleur, et la chaleur qui dure depuis trop longtemps.
Exactement. Si on regarde de manière très objective le total des précipitations depuis que sévit cette sécheresse, il n'est pas aussi bas qu'on le pense. Ce n'est pas la source du problème. La vraie source du problème, c'est une durée excessive de la saison estivale. Un seul chiffre, on a relevé 135 jours de température supérieure à 25 degrés durant la saison d'été à Grenoble et jusque même encore il y a quelques jours. Et cela, c'est tout simplement 40 jours au-delà d'un été classique. C'est-à-dire qu'il y a un mois et demi d'été en trop. Et cela induit une évapotranspiration, c'est-à-dire une consommation de l'eau du sol par les plantes et par réévaporation dans l'atmosphère qui est anormalement élevée.
Alors, je crois que vous attendez une perturbation d'ici quelques jours. Est-ce que cette bouffée d'hiver peut être suffisante? Est-ce qu'on peut revenir à la normale?
Alors, il ne suffira pas d'une seule perturbation. Effectivement, il semble que enfin les grandes perturbations atlantiques veuillent atteindre le quart nord-est de la France et les Alpes du Nord à partir de ce week-end. Mais on risque un petit peu de passer déjà d'un manque d'eau et de sol trop sec à un excès d'eau, et puis aussi un peu trop vite de la pluie est attendue, mais ce sera de la neige en altitude.
Vous passerez la sécheresse à la neige.
Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu cette image. Il faudrait quand même plusieurs perturbations atlantiques pour que, quelque part, on ait enfin une amélioration de la situation. Par exemple, les cultures qui sont semées à l'automne pour pousser durant l'hiver et le printemps, pour l'instant, ne démarrent pas.
Donc actuellement, la sécheresse est extrême en haute montagne. Le problème, je crois, dans les plaines et dans la montagne, c'est différent. C'est-à-dire que les nappes phréatiques en plaine à Grenoble, par exemple, elles pourraient ne pas être trop impactées.
Oui, ce sont surtout les rivières, les lacs et les sources de moyenne montagne qui sont actuellement impactées. Lorsqu'on est sur des plus grandes rivières, avec des alimentations en partie glaciaires, c'est la saison d'hiver qui compte essentiellement. C'est-à-dire que c'est les pluies à venir à partir de maintenant. Donc les eaux souterraines, globalement, sont beaucoup moins impactées par cette sécheresse tardive.
Alors évidemment, c'est une question qu'on doit vous poser souvent, mais est-ce qu'on voit là une conséquence du réchauffement climatique ou c'est plutôt une sorte de répétition générale de ce qui nous attend?
Alors, il ne faut pas voir cette année particulière, qui ressemble quand même un petit peu à 1985, comme une manifestation absolument abominable du réchauffement climatique. Par contre, il faut y voir quelque chose qui, dans la perspective de ce que l'on pense de l'évolution du climat dans les Alpes, est quelque chose qui deviendra beaucoup plus fréquent, auquel il faut s'habituer, autant dans les cultures que dans l'urbanisme, ou quand même dans la consommation en eau. Considérer dans les Alpes que l'eau est en abondance toute l'année, je pense que c'est un mythe maintenant et non plus une réalité.
Serge Taboulot, merci et merci à France Bleu Isère pour la technique.
Merci beaucoup Serge Taboulot et on se retrouve demain, Caroline, pour une nouvelle Une de la Science. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le plastique se retrouve jusque dans nos selles. L'étude menée par une équipe autrichienne démontre que les déchets plastiques entrent bien dans notre alimentation puisqu'on les retrouve à la sortie. Les chercheurs de l'Université de médecine de Vienne ont examiné à la loupe les selles de 8 cobayes originaires de 8 pays différents. En moyenne, ils ont retrouvé 2 microparticules par microgramme d'échantillon et ils ont identifié 9 familles de plastiques différentes, en particulier ceux que l'on trouve dans les bouchons et les bouteilles en plastique. L'étude ne dit rien en revanche du danger potentiel de ces particules sur l'homme. Les personnes qui ont un bon sens de l'orientation auraient également un bon odorat. Une étude canadienne menée sur plus de 50 jeunes hommes et femmes montre un lien entre une meilleure reconnaissance des odeurs et une bonne capacité à retrouver son chemin. Si la plupart des animaux se fient essentiellement aux odeurs pour trouver leur nourriture et éviter les prédateurs, c'est l'une des premières fois qu'une étude fait le lien entre les zones cérébrales de l'odorat et la mémoire spatiale chez l'humain. Et puis, quelle sera l'espérance de vie en 2040? L'Université de Washington vient de livrer son verdict sur les grandes tendances mondiales. Les chercheurs prédisent que les Français resteront à la 8e place avec un gain de 2 ans de vie pour atteindre 84,3 ans en moyenne. En revanche, les États-Unis devraient dégringoler dans le classement en passant la 43e place de la 43e place à la 64e avec un gain d'à peine une année d'ici 2040. La plus forte hausse au classement est attendue pour les Chinois qui, eux, gagneraient 5,6 années d'espérance de vie pour atteindre presque 82 ans. Allez, dossier sur les déchets radioactifs dans un instant. Queens, c'était The Blaze à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà, les déchets radioactifs, ils s'entassent partout en France. C'est en tout cas le constat qu'on peut faire en regardant cette carte publiée aujourd'hui sur le site reporter.net et qui recense toutes les communes qui accueillent dans notre pays des lieux de stockage ou d'entreposage. L'occasion de comprendre cet après-midi, donc, dans la tête au carré, ce qu'est un déchet, comment ils sont traités, quels sont les risques. Et pour en parler donc avec nous, Hervé Kempf, rédacteur en chef du site reporter.net, Émilie Masmin, journaliste et spécialiste de ces questions, justement pour le site. Et Didier Gay, vous êtes adjoint au directeur de l'environnement à l'IRSN, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Quel est le rôle d'ailleurs de l'IRSN au milieu de tous les acteurs du nucléaire en France ?
Alors, l'IRSN est un institut d'expertise et de recherche qui apporte son savoir au pouvoir public en premier lieu, de manière à les éclairer sur les décisions qu'ils ont à prendre, donc en apportant un éclairage sur le limité au plan technique et sur les aspects qui concernent la sûreté nucléaire, c'est-à-dire le risque d'accident associé à l'usage des technologies nucléaires, et puis à la radioprotection, c'est-à-dire les effets que l'on peut redouter lors d'une exposition à la radioactivité.
Vous avez un site, un IRSN, on peut voir justement toutes les questions que vous abordez, en particulier, on en discutait tout à l'heure, justement ce dialogue aussi avec les citoyens et les pouvoirs publics. Et puis Bernard Laponche, vous êtes physicien nucléaire, ancien ingénieur au CEA, le commissariat à l'énergie atomique, ancien directeur de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et vous êtes aussi le cofondateur, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de Global Change, qui assure une expertise indépendante dans le débat justement sur la transition énergétique. Les auditeurs nous rejoignent donc avec des questions nombreuses déjà sur franceinter.fr. Pas étonnant d'ailleurs, Hervé Kempf, parce que vous avez posté ce matin l'article avec la carte donc des sites concernés par les déchets radioactifs. Et c'est parti là aussi comme une traînée de poudre, également sur le site de la Tête au Carré. On a pu le mettre sur le Facebook. Et visiblement, ça intéresse beaucoup les citoyens et auditeurs de France Inter.
Voilà, et de reporters, et sans doute de beaucoup d'autres gens, c'est-à-dire toutes les citoyennes et les citoyens en France. Parce que qu'est-ce qu'on se rend compte avec ce travail qui a été mené par l'équipe d'Émilie Masmin, mais aussi Pierre-Isnard Dupuis, Charles Dano et Julien Villala, c'est que des déchets nucléaires, il n'y en a pas un seul tas en quelque sorte, mais il y en a dans un très grand nombre de communes en France. On a sélectionné 80 communes, on a fait des choix, il y en aurait encore un petit peu plus. Et ça veut aussi dire que ce problème, il parcourt l'ensemble du territoire et il concerne tous les citoyens.
Oui. Et beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, et d'entre nous, vont découvrir qu'il y a des déchets pas très loin, et d'ailleurs en particulier en région parisienne, également dans la vallée du Rhône, Émilie Masmin. En région parisienne, c'est très représenté.
Oui, tout à fait, parce que notamment à Saclay, il y a des centres de recherche du CEA, des endroits qui ont été exploités il y a longtemps et qui sont en cours de démantèlement. D'autres centres de recherche qui sont encore utilisés. Et en vallée du Rhône, il y a de nombreuses installations du cycle du combustible. En fait, ce qui m'a frappé en préparant cette carte, c'est que souvent on pense déchets radioactifs, on pense projet CIGEO, les déchets les plus radioactifs, l'ultra-minorité. Et en réalité, il y a beaucoup d'autres sortes de déchets qui sont moins radioactifs et qui sont dangereux moins longtemps, mais qui sont quand même dangereux pendant des centaines d'années et quand même dangereux. Et on se rend compte que l'emprise sur le territoire entre les centrales nucléaires, entre les installations du cycle du combustible pour fabriquer l'uranium pour les centrales nucléaires, pour ensuite le retraiter, ce qui est une spécificité française, pour ensuite l'entreposer en attendant de trouver des solutions, et les sites de stockage qui existent déjà, il y a une emprise sur le territoire qui est très très importante.
Alors vous êtes concentré sur la filière de production d'électricité et des armes atomiques, en excluant donc les déchets issus des domaines médicaux, comme ceux qui vont en radiographie, en radiothérapie, ou ceux liés à la recherche avec le carbone 14. Donc il faut comprendre cette carte de cette façon-là. Bernard Laponche, vous l'avez vu cette carte, évidemment. Vous nous faites un premier commentaire justement sur son profil, sur ce qu'on peut y lire, parce qu'il y a différentes manières évidemment d'interpréter une carte. Comment on doit la comprendre alors ?
On peut l'analyser de deux façons. La première façon, c'est effectivement l'étendue de l'existence de ces déchets sur l'ensemble du territoire. Ça, je pense que c'est très intéressant. C'est l'objet d'une cartographie. On voit une carte et on voit qu'il y en a à peu près partout. Depuis, deuxièmement, se rendre compte que tout le long de la vie de ce qu'on appelle le combustible nucléaire et les usines et les centrales nucléaires, etc., il y a des déchets. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas une étape où on pourrait dire, bon, ça va, il y a des déchets, Il y a aussi des rejets, alors c'est pas le sujet directement, il y a des rejets aussi de matières radioactives dans l'atmosphère et dans l'eau, oui. En particulier l'usine de La Hague. Mmh. Et donc, on peut dire que le pays est couvert d'une certaine pollution radioactive, et bien répartie d'ailleurs un peu partout. Le deuxième, c'est de regarder par thème, c'est-à-dire sur quel sujet, qu'est-ce qui produit ces déchets. Alors, il y a eu les déchets, les résidus produits par les mines d'uranium. Alors, ils sont fermés puisque maintenant, tout l'uranium utilisé en France est importé.
Ouais.
Qui va s'inquiéter des conditions de travail au Niger, au Gabon, au Kazakhstan? Mettons que peut-être l'Australie et le Canada, c'est vérifié, mais en gros, il y a de très gros problèmes. Un, de déchets, deux, de conditions de travail. Et très souvent, c'est lié.
Ben justement, on va écouter un petit son que vous proposez sur le site reporter.net avec un personnage qui s'appelle Watson autour des déchets nucléaires pour comprendre justement toute la filière depuis des pays très lointains jusqu'à chez nous pour le retraitement.
Voici Watson. Watson est un citoyen comme les autres qui considère l'électricité comme quelque chose de normal dans sa vie. Mais en branchant sa lampe aujourd'hui, il va découvrir qu'il aura fallu contaminer tous les sites d'extraction de l'uranium à des kilomètres à la ronde en France et chez nos voisins. Contaminer les eaux des pays producteurs ainsi que leurs terres, laisser s'évaporer des produits radioactifs dans des départements entiers, entreposer et abandonner plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets et des matières qui ne seront peut-être jamais réutilisées et qui resteront radioactives pendant des dizaines, voire des centaines de milliers d'années.
Voilà Hervé Kempf, Watson, donc pour nous en apprendre un petit peu plus sur toute la filière du nucléaire, parce que c'est comme ça au fond qu'il faut l'envisager. Hein.
C'est partir de la mine, toujours se rappeler effectivement qu'il faut d'abord de l'uranium, qui est ce minerai radioactif, il faut ensuite le purifier, il faut le préparer dans des crayons qui vont devenir des assemblages qu'on va mettre dans les réacteurs. Et dans les réacteurs, on va ensuite les enlever. Effectivement, la spécificité française qu'il faut souligner tout de suite, c'est que dans les autres pays, par exemple la Suède, les États-Unis, on va mettre ce combustible usé qui est déjà un vrai problème, qui est un déchet, qui est très chaud, qui est très radioactif pour des milliers d'années, on va le mettre de côté, on va avoir en quelque sorte un problème à ce niveau de la chaîne. La France, elle, a imaginé de faire du retraitement. Donc, on va prendre une partie de ce combustible usé, parce qu'on ne le traite pas totalement. On va le séparer avec des produits chimiques, et donc il va aussi y avoir une pollution chimique, mais qui est, on va la laisser de côté. Et on va se retrouver avec du plutonium, des actinides mineurs, de l'uranium de retraitement. Et après, on va ensuite utiliser une partie du plutonium pour faire du MOX, en le mélangeant avec un peu d'uranium, qui va faire une autre catégorie de déchets. Et donc, on se retrouve au terme de cette spécificité française, avec 5 déchets très radioactifs, alors que dans les autres pays, on a le combustible usé tout court, ce qui en soi est un problème, mais simplifie le problème.
Didier Gay, il vaut mieux ne pas faire de retraitement, alors c'est moins pire que tout ou pas?
Au préalable, si vous m'y autorisez, je voulais revenir sur l'intérêt que présente le travail de cartographie qui a été effectué.
Parce que c'est compliqué à avoir une telle carte, d'ailleurs.
Effectivement, c'est intéressant. D'abord, comme vous l'avez dit, pour incarner finalement une problématique à laquelle on a du mal à trouver des points d'accroche. Donc, le fait de passer par le territoire, c'est une très bonne manière d'intéresser les citoyens.
Surtout au moment où un débat public va être organisé.
Exactement.
En décembre,
donc, c'est aussi, je pense que ça servira tout à fait les enjeux et l'intérêt et ce qui essaie d'impulser la CPDP au travers de ce débat. Donc ça rend les choses concrètes, à partir de ces éléments concrets, de cet intérêt, je pense qu'il faut amener des éléments de compréhension, donc je pense que les pistes qu'a amené Monsieur Kempf à l'instant sont tout à fait utiles. Alors il faut le faire de manière à éclairer réellement le débat et éviter le plus possible des amalgames. Alors de ce point de vue-là, j'étais un petit peu gêné dans ce qui était dit tout à l'heure, lorsque l'on passait d'une notion qui était la distribution sur le territoire à quelque chose qui était une notion d'emprise. Je pense que le fait qu'il y ait des installations qui hébergent, qui contribuent à gérer des déchets à un instant donné, qui sont répartis sur le territoire, ne veut pas dire que l'ensemble du territoire serait assailli finalement par la charge de ces déchets. Et cela ne veut pas dire non plus que l'ensemble du territoire serait soumis à des pollutions qui seraient problématiques. Donc il est normal de parler des pollutions qui peuvent exister lorsqu'elles existent. Je pense qu'il faut le faire avec une intention de discernement.
D'autant que ce n'est pas une carte sanitaire, on est bien d'accord là-dessus. C'est vraiment une carte informative sur la présence, effectivement, de ces lieux de stockage, par exemple, ou des usines nucléaires. Mais il n'y a pas, effectivement, d'informations sur la conséquence sur la santé. Sur l'aspect, justement, du retraitement français, on avait presque du mal à
comprendre si c'était bien ou pas finalement de retraiter les déchets par rapport à nos voisins ou d'autres pays outre-Atlantique.
Alors c'est un sujet emblématique, en particulier en France. Je pense qu'on peut l'aborder sous divers angles. Il y a un angle qui est l'intention initiale, qui est de dire, lorsque je produis de l'électricité, je mobilise un élément particulier ou un isotope particulier de l'uranium, qui est l'uranium-235. Et tout l'effort que je fais pour aller chercher l'uranium dans la mine et produire le combustible est un effort important qui me permet de passer à un combustible qui va produire de l'électricité. Lorsque je décharge ce combustible, finalement, il a toujours un potentiel énergétique qui est extrêmement élevé, qui est pratiquement intact par rapport à celui qu'il avait initialement. Donc, dans la logique des ingénieurs qui sont intéressés à l'électronucléaire, ils ont réfléchi à la manière de valoriser, au-delà de ce qui était fait dans un réacteur à eau pressurisée, le potentiel énergétique de l'uranium. Et c'est ce qui a conduit à réfléchir aux possibilités de retraitement, retraitement tel qu'il est fait aujourd'hui en France, et qui est discuté parce qu'effectivement, il travaille sur le principe que j'évoquais là, mais il y travaille en avançant finalement d'un pas relativement modeste. Donc j'imagine qu'on va
pouvoir en discuter. Alors,
oui, il faut rappeler l'histoire. Le retraitement, comme d'ailleurs le développement du nucléaire, malheureusement, a commencé avec la Seconde Guerre mondiale. La première réacteur a démarré en 1942, et les premières techniques qui ont été mises en œuvre par le projet Manhattan aux États-Unis. Oui. Ça a été l'enrichissement de l'uranium pour produire une bombe atomique à l'uranium-235, celle qui a été envoyée sur Hiroshima, et pour produire une bombe atomique avec comme explosif le plutonium. Et le retraitement, les usines de retraitement ont été créées aux États-Unis, puis en Angleterre, puis en France, pour la production de plutonium, pour les besoins militaires. Et c'est resté la production de plutonium, l'objectif. Alors après, on est passé à des applications civiles, ce que vous venez d'expliquer, mais le point de départ, ça reste la production de plutonium. Et d'ailleurs, l'usine de La Hague s'appelle UP, usine plutonium. On a fait d'abord ce plutonium pour faire marcher les surgénérateurs, réacteur neutron rapide dont le dernier avatar est Superphénix, donc cette filière a été abandonnée à peu près partout, sauf en Russie. Et après, on a fait un combustible avec le plutonium qu'on appelle le combustible MOX. La conséquence de tout ça, du point de vue des déchets radioactifs, c'est ce qu'exposait Hervé Kampf, c'est qu'on a multiplié le type de déchets sans gagner en radioactivité. C'est ça qui est important.
Ça veut dire quoi, sans gagner en radioactivité?
On ne réduit pas la quantité de radioactivité. C'est comme ça, on la distribue entre toute une catégorie de déchets, et donc finalement c'est très compliqué parce que on a des combustibles non retraités, on a des combustibles MOX non retraitables, on a des combustibles, des déchets vitrifiés,
etc. Donc on a toute une gamme, sur le territoire français on a un éventail très extrêmement large, complexe. Avec ceux qui ont des durées de vie courtes et ceux au contraire avec des durées de vie très très longues. Émilie Massemin.
Oui, tout à fait. Alors sur le retraitement, ce qui est intéressant, c'est de voir que il y avait ce projet de déployer des réacteurs à neutrons rapides de type Superphénix sur l'ensemble du territoire et qui était censé entre guillemets manger tout ce qu'on produisait d'uranium appauvri qui ne nous servait pas, parce que quand on produit de l'uranium enrichi pour faire tourner nos réacteurs, ça veut dire qu'il y a de l'uranium appauvri, 7 fois plus d'uranium appauvri que d'uranium enrichi qui nous reste sur les bras et qui pour le moment n'est pas utilisé. Et par ailleurs, ça permettait aussi, et qui devait aussi manger le MOX et le plutonium. Superphénix a échoué. Là, en ce moment, il y a un nouveau projet de réacteur à neutrons rapides qui est à l'étude par le CEA qui s'appelle Astrid. Ça ne marche pas bien du tout. Ça a été lancé en 2010. Ça devait être mis en service en 2020. Ça a été repoussé à 2039. C'est en train de se transformer en trou noir financier. Il faut aussi penser à tout ce qui est acceptabilité sociale, de déployer un nouveau parc de réacteurs à neutrons rapides sur le territoire alors qu'on est censé sortir du nucléaire un moment. Et puis surtout, le MOX usé, il est beaucoup plus dangereux que l'uranium, le combustible uranium usé, parce que comme il contient du plutonium, il reste chaud pendant très longtemps, beaucoup plus longtemps, il doit être entreposé en piscine.
C'est la durée de refroidissement, en fait, qui est très difficile à gérer avec toutes ces piscines, justement, qui servent à refroidir ces déchets. On en rediscute ensemble, évidemment, dans un instant. Beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque à l'occasion donc, de cette sortie, de cette carte des déchets nucléaires en France.
Quel est ce parfum que le vent dépêche ? On dirait que la chair brûle. Viens, suis-moi, je connais l'endroit où l'herbe est encore fraîche. Empruntons ce chemin, dis adieu à la ville. Je t'attends, prends ma main. Cesse donc de jouer l'indocile. La lave aura bientôt recouvert nos maisons. Je t'en prie, allons-en. Mon cœur est un pendule, mon cœur bat dans tes pas. Je ne fais que t'attendre, mon cœur, sous le ciel noir de cendre. Oh, Ginger, la montagne vacille. Oh, Ginger, allons-nous-en d'ici. Cours, enfin, cours, allez, vas-y. Que l'enfer entier est à notre route. La lave s'avance, mais je crois en la chance de rejoindre la mer. Elle est là, quelque part, non, ne te retourne pas. Rien, vite, suis-moi, mon cœur. Les chiens sont à nos talons, mais elle a jeté de plus loin. Oh, Ginger, le sol se nous vacille. Mais Ginger, un grand bateau se dessine là-bas. Mon cœur, l'espoir nous fait un signe. Oh Ginger, nous serons loin d'ici. Dans une heure, si tu les veux, sauve-toi. Allez, vas-y.
Et à l'instant, c'était Feu Chatterton avec Ginger.
Les déchets radioactifs sont nos amis pour la vie. La tête au carré.
Voilà les déchets radioactifs qui s'entassent partout en France. C'est le titre donc de cette carte à retrouver sur le site reporter.net avec nous justement Hervé Kempf et Émilie Massemin qui ont longuement travaillé justement pour faire cette carte. Et puis Bernard Laponche, physicien nucléaire, et Didier Gay donc avec nous pour l'IRSN avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Pourquoi c'est si compliqué justement Didier Gay de faire une carte comme ça et de pouvoir en dire quelque chose précisément aux citoyens ou au pouvoir public d'ailleurs, qui ont besoin aussi de décryptage.
Alors, les cartographies, donc j'en ai indiqué l'intérêt tout à l'heure, plusieurs existent d'ores et déjà. Alors l'IRSN a produit une carte par exemple pour recenser les anciens sites miniers, donc, pour le compte
très important
de l'écologie.
Aussi,
Et là on compte aussi une répartition géologique sur l'ensemble du territoire et un nombre conséquent de sites puisqu'on en a 250. Il y a l'inventaire Andra qui est dorénavant disponible sous la forme d'une cartographie également. Donc je pense que ça c'est une initiative louable et d'autant plus intéressante qu'elle émane d'un acteur qui n'est pas un acteur institutionnel du nucléaire. Donc finalement ça aura sûrement une vertu qui est de diffuser cette connaissance au-delà des cercles d'initiés habituels. Ensuite, encore une fois, c'est les décryptages qui sont utiles et les distinctions à faire entre les différents points que l'on voit apparaître sur une carte. Il y a une distinction double à faire entre d'une part ce qui relève de matière radioactive et ce qui relève de déchets radioactifs. Donc, en France, on a défini un cadre réglementaire qui amène à cette distinction. Par ailleurs, il est intéressant dès lors que l'on s'intéresse aux déchets radioactifs de différencier les déchets pour lesquels il existe des filières de stockage. Et donc qui ont une solution qui se veut être une solution définitive et les déchets pour lesquels il y a des filières de stockage en réflexion, donc en préparation, en cours d'étude.
Émilie Massemin, la distinction entre la matière et le déchet, on peut peut-être quand même l'expliquer aux auditeurs.
Oui, alors un déchet radioactif, c'est une substance radioactive pour laquelle on n'a plus d'utilisation possible. Quoi qu'il arrive, on n'en fera plus rien. Mmh. Par contre, une matière radioactive, c'est une matière qui, selon la filière, est potentiellement revalorisable. Donc, qui pourrait être réutilisée, par exemple, comme combustible un jour. Le problème, c'est que qui dit valorisable ne veut pas dire valorisé. Par exemple, en ce moment, l'uranium appauvri, qui est considéré comme une matière, n'est pas utilisé.
Donc, qu'est-ce qu'on en fait ?
Eh ben, pour le moment, on l'entrepose dans des fûts. Ensuite, pareil, le MOX usé, c'est considéré comme une matière, mais ce n'est pas valorisé en ce moment. Et la seule perspective, par exemple, de revalorisation pour le MOX, ce sont ces fameux réacteurs à neutrons rapides dont on ne sait pas s'ils arriveront sur le territoire un jour. Et on n'a pas d'autre solution pour le réutiliser. Donc, il est possible que ce soit requalifié en déchets. Et du coup, j'insiste sur cette distinction parce que, en fait, il est possible que notre inventaire de déchets radioactif actuel soit sous-évalué parce qu'en fait il ne tient pas compte du MOX, il ne tient pas compte de l'uranium appauvri et il est tout à fait possible que dans les années à venir, si le parc de réacteurs à neutrons rapides n'était pas déployé, ils deviennent des déchets à leur tour.
Donc le volume en serait d'autant plus important également. Bernard Laponche.
Alors c'est cette distinction d'abord est comme d'habitude particulière au nucléaire. Parce qu'un déchet en France, n'importe quel déchet, c'est quelque chose qui est produit comme un sous-produit, un résultat d'une activité industrielle ou domestique, etc., les ordures ménagères. Mmh. Et on ne se pose pas la question d'une utilisation future éventuelle, sauf si l'utilisation est immédiate. Dans le nucléaire, on dit pas du tout ce que vous venez de dire, ça va être réutilisé. En fait, le seul qui soit réellement recyclé, c'est le plutonium. Puisqu'on le met dans les combustibles MOX. Bien ou pas bien, je veux dire. Bon. Mais tout le reste, l'uranium de retraitement, l'uranium d'enrichissement, pratiquement n'est pas utilisé, ou très peu, en particulier dans le MOX, mais ce sont des quantités très inférieures à ce qui existe. Et d'autres, donc, c'est un peu une arnaque. Il faudrait distinguer entre déchets, appeler tout ça des déchets radioactifs. Certains sont recyclables, certains sont recyclés, et d'autres sont considérés comme déchets ultimes. Même les déchets ultimes, on pourrait dire par exemple ceux qui sont vitrifiés, peut-être qu'un jour, il pourrait y avoir un intérêt dans ces matières qui sont des produits, des actinides mineurs qui n'existent pas dans la nature, qui auraient peut-être des propriétés intéressantes.
La vitrification, justement, c'est une méthode pour des déchets de très très longue durée en général ou des déchets qui sont considérés comme les plus dangereux aujourd'hui ?
Dans le combustible irradié, ce qui est le plus dangereux et qui est d'ailleurs le plus de tous les déchets, c'est ce qu'on appelle soit les produits de fission, qui sont produits par la fission d'uranium, soit les actinides mineurs, le plutonium et les actinides mineurs, qui sont produits par des réactions nucléaires à partir de l'uranium, pour faire vite. Donc ceux-là, ce sont les plus radioactifs, à la fois en intensité de radioactivité, et aussi, pour certains d'entre eux, en durée de vie.
Et la vitrification, alors ?
Alors, on extrait par le retraitement, c'est par l'uranium de retraitement, le plutonium, et on laisse dans un jus les produits de fission et les actinides mineurs. On sèche ce jus dans des évaporateurs et avec la matière qui reste, on la mélange aux composants du verre et on fait des blocs de verre qui contiennent cette radioactivité, qui sont tellement chauds et radioactifs, qui sont stockés à la Hague, dans des courants d'air, on peut dire, mais qui sont stockés, qui devront être entreposés ou stockés ou surveillés pendant très longtemps, puisque les durées de vie peuvent atteindre des millions d'années.
Allez, les questions des auditeurs, parce qu'ils sont là aussi, ils s'intéressent à cette question. Jean-Paul qui nous dit, à quel risque est-ce qu'on s'expose à voir les déchets nucléaires enfouis à proximité de nappes phréatiques fossiles, concernant bien sûr l'eau potable. Didier Gay, par exemple, pour répondre à Jean-Paul.
Alors, le frais de préserver les ressources en eau est évidemment au cœur des réflexions sur le stockage géologique. L'idée, lorsque on définit les critères à satisfaire pour un site de stockage, c'est un environnement géologique adapté. Un environnement géologique adapté veut dire au moins deux choses, même trois, je vais en rajouter une troisième. Premier, c'est suffisamment profond pour être à l'abri des phénomènes qui peuvent venir remettre en cause son intégrité. Deuxième chose, dans un milieu géologique, une couche de roche qui a des propriétés que l'on appelle de confinement, c'est-à-dire qui va empêcher les mouvements d'eau dès lors que l'on referme correctement le stockage. Et une troisième chose qui est l'absence d'aquifère d'importance de part et d'autre de cette couche géologique. Donc ça, ce sont les critères sur lesquels l'ANDRA se doit de travailler pour proposer des sites de stockage.
Sauf que Émilie Masmin, justement, vous le dites dans l'article de reporter, en cas de contamination, par exemple, de nappes d'eau, il y en a eu une, par exemple, en 1976, sous le centre de stockage de la Manche, on a encore des effets aujourd'hui de cette contamination. Donc c'est extrêmement long. Hein.
Tout à fait. Et surtout, le projet d'enfouissement en couche géologique profonde CIGEO n'est pas du tout l'alpha et l'oméga de la politique de gestion des matières radioactives en France. Par exemple, il y a un autre projet de stockage qui est à l'étude, qui est pour les déchets de faible activité à vie longue, qui a lieu, il y a 10 km² qui ont été identifiés au nord de Soulaine dans l'Aube pour l'installer. Et ce sera en subsurface, donc ce sera pas aussi profond, donc là on n'aura pas entre guillemets la protection de la profondeur, etc. Ensuite, il y a quand même eu un précédent en 1976, la nappe d'eau qui était sous le centre de stockage de la Manche, qui est aujourd'hui fermée, qui a été contaminée par du tritium. Donc l'eau qui est encore contaminée et la contamination est encore significative, même si elle décroît. Et là, plus récemment, pour l'entreposage à Malvézy, il y a eu la rupture d'une digue en 2004. On a quand même retrouvé du plutonium dans les champs de blé alentour. Donc c'est pas une industrie où on peut se targuer d'un risque zéro.
Hervé Kempf, une question de Delphine peut-être pour vous. En quoi le projet d'enfouissement des déchets à Bure serait une solution au traitement des déchets nucléaires comme le présente l'ANDRA? Alors, vous nous expliquez déjà ce que c'est que ce projet de Bure, parce qu'on connaît bien le nom, mais si on n'est pas à proximité du site, on ne sait pas forcément exactement ce qu'on peut y faire.
Voilà, donc les autorités étatique, et c'est l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, qui pilote et qui coordonne ce projet. Ce sera un projet d'enfouissement à grande profondeur, à de l'ordre de 500 mètres, d'une partie des déchets radioactifs, on va y revenir, à Bure, qui se trouve dans la Meuse. Et le projet s'appelle CIGEO, ça veut dire donc Centre industriel d'enfouissement géologique.
De stockage
géologique, voilà. Didier Guay précisait. Donc ça, c'est un projet qui pose beaucoup de questions en termes de sécurité, en termes de nappe phréatique, en termes voilà. Donc c'est vraiment
quand on dit enfouir, c'est à quelle profondeur justement?
500 mètres de l'ordre de grandeur dans des galeries qui feraient des dizaines de kilomètres. Donc c'est un chantier de travaux publics absolument colossal. On estime que ça serait le plus grand chantier s'il était engagé de travaux publics du siècle, plus important par exemple que le tunnel sous la Manche, et pour des durées d'exploitation d'enfouissement qui se comptent en décennies. Donc ça, c'est un projet qui est extrêmement discuté sur place et qui par ailleurs ne résout qu'une partie des déchets, c'est-à-dire les plus dangereux comme ceux qu'a cité Bernard Laponche, c'est-à-dire les produits de fission, les actinides mineurs, éventuellement le MOX sujet, dont on ne sait pour l'instant pas quoi faire, mais ça ne résoudrait en aucun cas le problème des combustibles usés non retraités, l'uranium appauvri, le plutonium dont on a encore 59 tonnes qui sont sur étagère, comme on dit, l'uranium de retraitement, etc. Donc ça n'est qu'une partie du problème.
Et
donc, il faut d'abord discuter sérieusement. Est-ce que CIGEO est la bonne solution? Ce qui n'est pas du tout évident, et peut-être que le débat public qui aura lieu à partir de décembre ou de janvier aidera à éclairer les choses, et que par ailleurs, il faut se poser la question de tous les autres déchets qu'on a cités au cours de cette émission.
Avec cette discussion, on peut le rappeler, un débat national sur les déchets nucléaires qui sera organisé donc décembre ou janvier par la Commission nationale de débat public. Et c'est la troisième fois d'ailleurs que des citoyens sont associés à cette question. Didier Guay, pour rebondir sur Bure peut-être quand même.
Oui, et puis j'aurais deux commentaires. Un commentaire sur effectivement le fait de bien positionner les différents types de stockage, parce que tout à l'heure j'ai donné des critères sans bien préciser que c'était les critères qui étaient ceux applicables au stockage géologique, donc celui le plus profond et qui est destiné à un type de déchet particulier qui est que sont les déchets haute activité à vie longue. Donc le stockage dont je parlais là, c'est celui qui a été évoqué à l'instant, c'est-à-dire CIGEO, le projet CIGEO. Ce qui est indiqué, c'est les incertitudes ou les questionnements à propos des inventaires qui sont destinés, donc des inventaires de déchets. Quels sont les types de déchets qui ont vocation à arriver dans ce stockage-là? Ce que l'on indique, c'est qu'il y a un questionnement autour des combustibles usés en particulier. On l'a évoqué, est-ce que ces combustibles usés ont vocation à être retraités et est-ce que l'on a vocation à valoriser l'uranium et le plutonium qu'ils contiennent, ou bien est-ce qu'on a vocation plutôt à les considérer comme déchets et à les envoyer en stockage géologique. Cette question, finalement, elle est abordée. Et elle a des conséquences qui sont assez explicitement mentionnées dans l'inventaire de l'ANDRA. Pour être un peu plus clair, si on ne retraite pas les combustibles usés, on ne produira pas des colis vitrifiés que l'on avait évoqué tout à l'heure. Donc finalement, ne pas retraiter les combustibles veut dire que l'on produira moins de déchets destinés au stockage CIGEO. Et finalement, les combustibles usés viendront se substituer aux déchets vitrifiés qui étaient destinés au stockage. Donc ça va modifier la donne, c'est évident, c'est-à-dire les objets que l'on a vocation à mettre à CIGEO ne sont pas les mêmes. Et il y a un vrai questionnement autour du fait que la manière dont l'ANDRA conçoit son stockage va pouvoir s'adapter à une évolution d'un choix sur ces sujets-là. Mais ça ne veut pas dire que si on décidait de ne pas retraiter, on se retrouverait avec une modification colossale de ce qui a envoyé à CIGEO.
Bernard Laponche,
rapidement.
Physicien nucléaire.
J'ai dit dès le début, il y a un point central, c'est la question du retraitement. On a vu tous les inconvénients que ça présente du point de vue de la variété de déchets. Les avantages, c'est-à-dire le fait d'utiliser du plutonium à la place de l'uranium et de faire des surgénérateurs, c'est extrêmement discutable. On n'a pas le temps ici, mais c'est quand même des rêves qui probablement ne seraient jamais réalisés. Et donc la solution par rapport au retraitement, c'est d'arrêter le retraitement et de faire comme font tous les autres pays qui ne sont pas forcément complètement idiots. Parce que quand même, la réputation en France, c'est que tout ce qui fait différemment est idiot. C'est-à-dire, on s'arrête au combustible irradié et on considère le combustible irradié comme le déchet ultime, comme Allemagne, États-Unis, etc. Ça a des conséquences sur la question des déchets. Et il y a d'une part CIGEO, dont a parlé Hervé et Didier. C'est CIGEO. Alors CIGEO, c'est un projet pharaonique. Je ne sais pas combien de milliards, une centaine d'années, enfin c'est quand même colossal, qui n'est pas réversible, alors que les parlementaires ont demandé la réversibilité, c'est-à-dire on ferme et c'est fini. En fait, on a mis des produits extrêmement dangereux dans la croûte terrestre, on pollue la croûte terrestre. L'alternative, qui commence quand même à faire jour, c'est le stockage à sec, c'est-à-dire après les piscines...
En subsurface, sec, hein, c'est
en
ça.
En subsurface, c'est c'est-à-dire... Le flanc d'une colline,
oui.
Bon, les Allemands ont fait ça, on peut faire ça en France,
oui.
On les entrepose. Alors, ce n'est pas définitif,
oui.
Mais on donne la chance à la science de nous apporter des réponses. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il n'y a aucune solution satisfaisante, et la moins mauvaise, c'est CIGEO.
Oui.
Mais CIGEO bloque tout. C'est-à-dire, si on trouve, dans un siècle par exemple, une solution, on dira, ben zut, on peut... C'est fini, c'est à 500 mètres sous terre et c'est tout bouché. Nous disons, la science nucléaire est quand même assez jeune, faisons un entreposage sec en sur-surface, contrôlé, vérifié, sur lequel on peut intervenir, même s'il y a un incendie, etc. Bon,
ouais.
On sait faire, et laissons aux scientifiques de trouver une solution. Et là arrive, de façon extraordinaire, au début du débat, un prix Nobel de physique français,
ah oui, alors voilà.
Qui dit...
Gérard Mourou, il a la solution avec son laser.
Non, il n'a pas forcément, mais il dit, je travaille
dans
là-dessus.
Dans les applications.
C'est une idée, je vais travailler là-dessus. Ouais. Donc moi je dis, c'est formidable. On fait notre stockage à sec en subsurface, et on laisse travailler
alors,
ce monsieur le temps qu'il faut.
Voilà, Bernard Laponche, juste pour expliquer aux auditeurs ce que propose notre prix Nobel français, hein, à terme évidemment, parce que c'est 10-15 années d'études, hein, c'est de traiter donc le noyau atomique pour le transformer. Ouais. Et il dit en substance, la durée de vie des déchets sera changée fondamentalement, on pourrait la réduire d'un million d'années à 30 minutes. Voilà, bon, alors évidemment c'est très spectaculaire comme ça, c'est le projet qu'il est en train de lancer en collaboration justement avec le CEA, et il pourrait nous montrer quelque chose, dit-il, d'ici 10 à 15 ans, Hervé Kelf.
Sans doute reprendra-t-il les travaux de Carlo Rubbia, qui était le prix Nobel de physique
il y a plus de 20 ans et qui aussi disait on peut faire une transmutation des déchets nucléaires. Mais ça veut dire effectivement que la science n'a pas fini de dire son mot.
C'est ça qui est fondamental.
Prenons le temps de bien réfléchir avant de décider.
Émilie Massemain, la question évidemment de la circulation de l'eau radioactive dans les couches géologiques, ça préoccupe beaucoup les gens. Et puis également les incendies possibles. Bernard nous dit sur l'enfouissement des déchets, il y a une possibilité d'éjection de particules et de gaz radioactifs. Que se passerait-il justement en cas d'incendie? C'est une question qui revient beaucoup.
Alors, je ne sais pas ce qui se passerait en cas d'incendie exactement. Par contre, je sais que l'autorité de sûreté nucléaire, qui est notre gendarme du nucléaire, qui en fait surveille les activités des acteurs de la filière, a posé la question sur les colis de déchets bitumés. Il y a des colis qui sont très anciens, qui sont enrobés de bitume et qui présentent un risque réel d'incendie. Et c'est pour ça que, a priori, il serait pas. Enfin, il y a encore beaucoup de travail avant que l'ANDRA puisse les enfouir. Je ne sais pas exactement ce qui pourrait se passer en cas d'incendie, mais en tout cas, l'ASN considère qu'il ne faut pas que ça se produise parce que ce serait trop dangereux. Donc voilà.
Bernard Laponche, ce que vous nous dites en substance, c'est qu'il n'y a aucune solution satisfaisante aujourd'hui. Donc, laissons à la science le temps de faire son travail et trouver vraiment des solutions satisfaisantes. Didier Guay, c'est aussi le message que vous pouvez délivrer aujourd'hui?
Alors,
en quelques secondes, parce qu'on arrive à la fin de l'émission.
Très bien. Donc, peut-être pour rappeler qu'à l'issue d'une série d'itérations à laquelle l'IRSN a pris part au travers de son expertise, de l'expertise qu'elle a amenée, la solution du stockage a été considérée comme la solution de référence, c'est-à-dire celle qui donnait le plus de gages. Je suis aligné sur cette
position-là.
Tout le
monde n'est pas d'accord, évidemment, sur cette question. Fait, ouais. Bernard Laponche, le premier, d'ailleurs.
Voilà. Alors, pourquoi finalement, le fait de considérer le stockage géologique comme une solution de référence et pas l'entreposage de subsurface comme c'était évoqué? Tout simplement parce que le fait de choisir, non pas le milieu géologique, mais une installation bâtie, on va dire, pour héberger des déchets aussi dangereux que cela, pose le problème du vieillissement de ces installations. Donc le risque associé à ces déchets est si grand qu'il faut s'assurer que ces installations ont une performance et une durabilité de cette performance dans le temps qui est parfaite. Or, le faire, ça veut dire les remettre à jour de façon très très régulière, et ça veut dire du coup faire porter sur la société demain une charge qui est significative, et donc on a, du point de vue de la sûreté, c'est difficile de s'assurer que cette charge sera bien gérée.
Allez, débat public donc à partir du mois de décembre, ou janvier en tout cas. Évidemment, tout le monde est mobilisé là-dessus. En attendant, on peut donc découvrir cette carte des déchets nucléaires en France que vous proposez, reporter.net, le site. Il est également sur le Facebook de La Tête au Carré. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus dans l'émission.
France Inter, santé polémique, avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Dominique, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous nous parlez aujourd'hui des médicaments génériques.
Oui Mathieu, les médicaments génériques substitués aux médicaments de marque par les pharmaciens sont souvent l'objet de controverses quant à leur efficacité, pourtant présentée comme identique.
Et alors?
En fait, leur efficacité est similaire, à peu 20% près, chez la majorité des malades, mais pas chez nous, pas chez tous, pardon, comme l'a montré la crise récente du Levothyrox. Alors, l'incitation à l'usage des médicaments génériques, moins coûteux, a certes permis de ralentir la croissance des dépenses de santé, mais ces contrefaçons légales, si vous me permettez cet oxymore, pose des problèmes moins connus qui pourraient bien annuler leurs bénéfices.
Alors lesquels?
Il y en a pas mal, mais je vais vous parler aujourd'hui de la confusion que les génériques introduisent chez les vieux principaux consommateurs de médicaments. Le changement d'aspect de leurs médicaments les perturbe considérablement, induit des erreurs et donc des accidents et des hospitalisations dont le coût n'a à ma connaissance jamais été évalué, au moins en France. Alors, deux études récentes ont évalué un des aspects du problème, l'observance de médicaments, du traitement. Le patient prend-il correctement ses médicaments? Eh bien, ces travaux montrent que les patients qui reçoivent des médicaments génériques abandonnent plus souvent leur traitement que ceux qui reçoivent des médicaments de marque. En revanche, je n'ai pas trouvé d'études comptabilisant les hospitalisations ou les décès attribuables aux génériques. Peut-être parce qu'il ne doit pas être facile de trouver des financements pour de telles études politiquement peu correctes.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Dominique?
Eh bien, le néphrologue qui m'a fait découvrir ces études propose sur son blog une mesure que j'avais également suggérée sur le mien, imposer aux fabricants de génériques un aspect identique identique aux médicaments copiés. Mmh. On pourrait enfin identifier facilement les gélules et les comprimés en vrac dans un pilulier et éviter beaucoup d'erreurs de prise dont l'impact, encore une fois, mériterait d'être mesuré.
Bon, ça paraît logique, hein. Qu'est-ce qui bloque finalement?
En fait, il y a des obstacles juridiques parce que si la molécule qui constitue le principe actif du médicament est une chose, sa galénique en est une autre. La galénique, c'est la forme sous laquelle se présente le médicament, comprimé, gélule, sachet et autres suppositoires. Or, lorsque la molécule tombe dans le domaine public, après expiration de son brevet, sa galénique, elle, peut continuer à bénéficier d'une protection contre les copies, couleur des gélules ou forme des comprimés par exemple. Il faudrait donc une volonté politique nationale ou mieux internationale pour imposer des solutions permettant d'unifier la présentation des médicaments de même composition. Les laboratoires génériqueurs finalement subissent bien peu de contraintes alors qu'ils commercialisent à peu de frais des produits découverts et développés par d'autres, alors que l'enjeu sanitaire est majeur. À défaut d'être finalement identiques aux produits de marque, les génériques pourraient au moins être identiques entre eux. Ce serait un grand progrès pour sécuriser la prise des médicaments et pas que chez les vieux.
Merci beaucoup Dominique Dupin. Santé polémique, c'est à réécouter sur franceinter.fr. Merci également à Jérémy Guillon qui était aujourd'hui à la technique. Ainsi s'achève cette émission. Thierry Dupin en signe la programmation musicale. Et demain, nous parlerons pédagogie avec François Taddeï, apprendre au 21e siècle.